Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant qu'advient-il après la mort. Si vous possédez Internet, vous pouvez trouver sur www.bibleexplique.ch et vous pouvez trouver la première série « Je retourne à la maison ». C'est la première série de ce que vous entendez aujourd'hui. « Je retourne à la maison » et notre nouvelle série c'est « Qu'advient-il après la mort ?» Et je vous conseille de trouver le témoignage authentique, fabuleux, de Marietta. Vous trouverez tout cela sur Internet. Il y a plus de 3000 CD, une bibliothèque biblique à peu près complète. Donc nous arrivons à l'étude numéro 3. Chers amis, l'Apocalypse nous livre une image merveilleuse de la vie après la mort. Il est dit dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 5, « Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu, elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 5. Je prends parfois des textes dans les Bibles allemandes, puisque je suis de langue allemande. Mais rassurez-vous, c'est pareil chez vous. Il y a juste quelques synonymes qui peuvent changer. Synonyme veut dire une chose, la même chose, par d'autres mots. La Jérusalem céleste est donc une image du paradis, c'est la demeure où nous pourrons vivre en sécurité. Et Dieu lui-même vivra parmi nous. La ville céleste se distingue par l'absence de mort et de pleurs, car toutes les larmes y sont essuyées et toutes nos attentes seront exaucées. La ville céleste, en outre, assouvit l'ardent désir qu'inspire Jérusalem au peuple juif. Destination de leur pèlerinage annuel, Jérusalem était pour les juifs le temple où ils éprouvaient la proximité salvatrice de Dieu. Le psaume 122, versets 1 à 4, exprime la joie qu'ils ressentaient à cheminer ensemble et à chanter à l'unisson des louanges de Dieu. Il est dit, « J'étais joyeux que l'on me dise, « Allons à la maison de Yahvé. » Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. Là où montent les tribus de Yahvé. et pour Israël une raison de rendre grâce au nom de Yahvé. Dans d'autres versions, à la place de Yahvé, il est dit l'Éternel. C'est pareil. Chers amis, l'Ancien Testament chante la venue d'une nouvelle cité de Dieu en Sion, qui sera la demeure de Yahvé, c'est-à-dire de l'Éternel, à qui les peuples feront offrande. Psaume 46, versets 48 et 76. Et Yahvé bâtira lui-même la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 28, verset 16. De rubis et de pierres d'Ophir, ce sera merveilleux. Le prophète Ézéchiel dit que la nouvelle Jérusalem possédera 12 portes, lesquelles recevront les noms des tribus d'Israël. Mais la ville, elle, abritera également aux côtés de ces dernières les étrangers que Dieu intégrera à son peuple. La nouvelle Jérusalem descendra donc un jour du ciel où elle se dissimule actuellement. Cette attente impatiente de la Jérusalem céleste, elle se retrouve dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul évoque la Jérusalem d'en haut, libre et maternelle. Galates chapitre 4 verset 26. Les chrétiens ici-bas en sont déjà les citoyens. L'épître aux Hébreux, elle dit que nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fêtes et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Nous prenons d'ores et déjà part à la Jérusalem céleste. Nous y rencontrons le Dieu vivant et Jésus-Christ, médiateur d'une alliance nouvelle. Lorsque ici-bas, nous chantons, eh bien, nous joignons notre voix à celle des anges qui louent Dieu. La Jérusalem céleste où nous habitons dans notre foi, elle nous apparaîtra une fois franchi le seuil de la mort dans toute sa gloire et nous offrira une éternelle demeure. Les peines anciennes s'en seront allées. Querelle et haine cesseront de nous déchirer. L'amour nous liera les uns aux autres. La ville toute entière sera-t-elle une mariée et fera resplendir en nous la lumière éternelle de Dieu. L'Apocalypse reprend l'idée selon laquelle la Jérusalem céleste descendra du ciel sur la terre. La Jérusalem d'en haut représente non seulement l'ultime accomplissement de la gloire de Dieu et de son Messie Jésus, mais aussi la communauté des chrétiens. Aussi fut-elle abondamment représentée dans les enluminures médiévales et sur les murs frontaux de nombreuses églises. En s'imprégnant de cette image, les chrétiens devaient se considérer comme étant les citoyens de la ville céleste et, dans le même temps, aspirer à y séjourner pour l'éternité. Pendant qu'ils assistaient au culte, les fidèles prenaient part à la liturgie qui était célébrée dans la Jérusalem céleste. Ainsi, les croyants apercevaient la ville céleste et admiraient, fascinés, la merveilleuse beauté accomplie. Die Offenbarung, c'est-à-dire l'Apocalypse, décrit la splendeur de la Jérusalem céleste. Le rempart est construit en jaspe. La ville est en or pur. Les portes sont des perles. Tout n'est que éclat et beauté. Tout est empli de Dieu. La ville, on peut dire, pourtant, cette ville, elle se passe de temple. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de cathédrale. De temple, je n'en ai point vu en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu, maître de absolument tout, est lui son temple, ainsi que l'agneau, Jésus-Christ le Messie. La ville peut donc se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Offenbarung, Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Voyez-vous, le ciel est pareil à une ville où règne paix et harmonie, où les hommes vivent paisiblement ensemble et vouent à Dieu une même adoration. Oui, Dieu y règne en juste souverain. Rien de souillé, de sale, de bizarre ne pourra y pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 27. L'image du festin associée à celle du salut, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Yahvé Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. » Ésaïe chapitre 25, verset 6. Jésus s'empare de cette image du festin ou du repas de noces. Dans la parabole des cinq vierges sensées et des cinq vierges un peu sottes, il s'agit de veiller. Veiller et d'attendre la venue de l'époux. Saint Matthieu, chapitre 25, depuis le verset 1 jusqu'au verset 13. Si cette parabole illustre l'avènement de Jésus à chaque instant de notre vie, on peut également y voir une image de la mort. Jésus-Christ est l'époux, oui, l'époux qui, lorsque nous rendrons l'âme, Jésus viendra à notre rencontre et nous conviera au repas de noces. Là, il rassemblera les fragments épars et contradictoires de notre être. Là, il nous unira à nous-mêmes, à tous ceux qui nous ont précédés dans la mort et à Dieu. Donc, là, il y aura l'origine et la fin de notre existence. Et la vie éternelle, elle sera une vie d'amour. Elle sera pareille à la célébration d'un mariage où tout n'est que gaieté et réconciliation. Oui, Jésus nous relate deux paraboles de festin. Toutes deux concernent non seulement le ciel, mais aussi notre chemin sur terre. Conviés à devenir nous-mêmes et à nous unir à Dieu, nous sommes souvent absents au repas du Seigneur. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus répond par la parabole du dîner à ces mots d'un convive. Il dit « Heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Saint Luc, chapitre 14, verset 15. L'invité parle du repas qui nous attend au ciel. La parabole, elle se rapporte donc explicitement à la mort. Jésus nous a invités au repas éternel et nous exhorte à ne pas refuser inconsidérément son invitation comme le font les trois hommes de la parabole. Le premier, rappelez-vous, a acheté un champ. Le deuxième, 5 paires de bœufs. Le troisième vient de se marier. Saint Luc, chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 24. Il arrive, en effet, que l'homme, accaparé par la propriété, la réussite et les relations, décline l'invitation au festin éternel. Absorbé par trop d'occupations, il perd alors de vue le but de son existence. Le serviteur dans l'évangile de Saint Luc doit faire venir les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, autrement dit, les faibles, oui, ceux-là même qui, de rien, ne se peuvent targuer. Une promesse donc qui est faite à ceux d'entre nous qui se sentent pauvres, qui se sentent infirmes, à ceux qui souffrent de ne pas ressembler à l'image idéale à laquelle ils aspirent, à ceux, enfin, dont l'âme est flétrie et abîmée. Nous, qui sommes aveugles à notre propre vérité et handicapés par nos peurs, nous sommes invités au festin éternel. La mort, elle transformera tout ce qui en nous est aveugle, boiteux, estropié et pauvre. Sont également invités tous ceux que le serviteur trouve par les chemins et le long des clôtures. Autrement dit, tout ce que nous avons banni de notre vie, ce que nous avons jeté par-dessus les clôtures de notre existence, rien ne doit être exclu de notre union à Dieu. Tout en nous et invité à prendre part au festin éternel, à être touché et transformé par Dieu. Limité et restreinte ici-bas, eh bien oui, notre existence s'épanouira au ciel dans toute sa plénitude. Alléluia. L'évangile de Saint Matthieu met l'accent sur un aspect quelque peu différent. Le repas auquel le roi convie ses invités est un festin nuptial. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 14. Ce festin a pour mission de célébrer l'unité de tous les contraires, l'unité de l'homme et de la femme, de l'esprit et de la matière. Les noces célèbrent la bienveillante générosité de l'existence qui, éprouvant l'amour humain comme union vigoureuse de l'instinct et de l'esprit, de la matière et de la conscience, tombée donc en extase, on peut dire, transformée par le ciel, eh bien tout notre être sera sanctifié. Et cela nous pousse donc vers Dieu, afin que nous puissions nous unir à lui dans l'extase de l'amour, et que cet amour nous métamorphose en Dieu. Les convives, n'ayant cure de son invitation, qui n'ont rien voulu en savoir, qui l'ont rejeté, le roi envoie donc ses serviteurs par les chemins, et il leur enjoint de convier aux noces tous ceux qu'ils pourront trouver, les mauvais comme les bons. Nous sommes tous les invités au festin nuptial, et tout en nous y est convié, ce qui est mauvais comme ce qui est bon. Au ciel, nos défauts ne nous sépareront plus de Dieu. Ils seront transformés par son amour. La scène du convive qui ne porte pas la tenue de noces vient néanmoins troubler le ton optimiste de la parabole. La tenue de noces, cela symbolise une existence rendue digne du repas céleste par la conversion et par les bonnes actions. Si bon et mauvais sont conviés à la noce, la conversion est néanmoins absolument nécessaire. Nous devons être nés de nouveau. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs perdus. Nous ne pouvons nous rendre au festin nuptial en ignorant Dieu. Nous devons donc être disposés à assainir notre tenue, nous efforcer de faire disparaître les souillures de notre être. On ne peut accepter l'invitation aux noces du Fils tout en demeurant tel qu'on était jusque-là, à savoir mauvais. Moi, j'étais mauvais. J'étais même, pendant des dizaines d'années, un chrétien absolument de parade. On peut dire un chrétien qui se disait chrétien. Mais il y a eu un long chemin, et Dieu, par Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, m'a fait comprendre que je devais changer 180 degrés, faire demi-tour. Ce qui est mauvais doit donc être absolument transformé. Les deux paraboles que nous transmet la Sainte Bible nous indiquent que nous sommes conviés à prendre part au festin éternel, une invitation qui requiert notre gratitude. Nous ne pouvons nous asseoir à la table des noces que si nous sommes disposés à accepter les conditions liées à cette invitation et à laisser s'opérer en nous la métamorphose, faute de quoi nous serons jetés dans les ténèbres, le règne des pleurs et des grincements de dents. Tel est donc le sort réservé à celui qui réprime sa soif d'amour et de vie, qui refoule les désirs s'élevant dans son âme. L'enfer, c'est ce grincement de dents face à la promesse que l'âme divine ne peut pas admettre. Celui qui, en revanche, satisfait aux conditions du roi est éternellement invité à son festin de noces. Le festin de noces royal fait donc de nous des rois. Il nous unit à nous-mêmes et aux contradictions qui nous habitent. L'invitation, toutefois, nous exhorte à agir, à nous convertir et à reconnaître qu'étant pécheurs, nous sommes perdus. Raison pour laquelle nous avons donc besoin d'être sauvés. L'apôtre Paul a sa propre conception de la vie après la mort. Dans l'épître aux Philippiens, il exprime son espoir de façon très personnelle. Il dit « Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative, d'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup bien préférable. Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 23. L'apôtre Paul aime la vie. Selon lui, la vie, c'est tout simplement Jésus-Christ, son Sauveur et Seigneur. Il vit, l'apôtre Paul, pour le Christ, et il sent que son existence porte ses fruits. Il proclame l'évangile de Jésus dans le monde entier, manifestement désireux de gagner à sa cause le plus grand nombre possible. Mais lorsqu'il songe à sa mort, s'élève en lui le sentiment qu'elle représente un gain. Le désir s'empare alors de lui de partir et de rejoindre le Christ Jésus. L'apôtre Paul conçoit donc la mort comme un départ pour une autre vie, une conception issue de la philosophie stoïcienne de son époque. Vivre après la mort, cela signifie pour lui être auprès du Christ Jésus. Son désir de vivre en union avec Jésus est si ardent qu'il ne craint pas de mourir. Bien au contraire, il préférerait même s'en aller afin de satisfaire ce désir. Le texte grec dit ici « être avec le Christ, vivre en union avec lui, intimement lié à lui ». L'aspiration de l'apôtre Paul s'exprime également dans la deuxième épître aux Corinthiens. Nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter carrément ce corps. Vous l'avez compris. Pour aller demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Demeurez auprès du Seigneur, cela signifie, selon Paul, demeurer dans le Christ, trouver en lui une patrie, se sentir à jamais en sécurité auprès de lui. Le texte grec emploie pour les verbes quitter et demeurer deux mots de la même famille qui signifient respectivement déménager du pays qui fut jusque-là notre patrie et de emménager dans un nouveau pays, celui que le Christ nous a préparé auprès de Dieu afin que nous y demeurions éternellement avec lui. Tel est le vœu le plus ardent de l'apôtre Paul, être éternellement avec le Christ, demeurer auprès de lui, trouver en lui une patrie, le contempler et s'unir à lui. Demeurer auprès du Seigneur, cela signifie que la vie éternelle établit avant tout une relation intime avec Jésus-Christ. Les expériences que nous partageons ici-bas avec Jésus dans la prière, la méditation, les sacrements s'accomplissent au ciel. Par les sacrements, Jésus nous effleure. Par la Sainte Cène, il s'unit à nous. Mais seule la vie éternelle, telle que l'apôtre Paul cela représente, abolit à jamais la distance qui nous sépare du Christ. En assimilant le Christ et le ciel, la théologie s'est emparée des paroles de l'apôtre Paul. Lorsque nous sommes avec le Christ et en lui, eh bien nous sommes au ciel. Et notre désir d'être accepté par lui, aimé de lui, uni à lui, transformé par lui, cela est à jamais satisfait. Alléluia. L'épître aux Hébreux cite la mise en garde du psaume 95, donc 95, ils n'entreront pas tous dans mon repos. Hébreux 4, verset 3. Mais nous, chrétiens, nous pouvons être confiants car nous entrerons grâce au Jésus-Christ dans le repos divin. Et si ce repos marque déjà notre vie ici-bas, seul la mort nous plongera dans l'éternel repos. Nos prières ne cessent de l'invoquer. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Ce repos n'est pas celui du tombeau, mais c'est celui du sabbat. De même que Dieu, le jour du sabbat, se repose de son ouvrage, en lui, nous pouvons nous reposer de tous nos tourments et de tous nos actes. Quand il fut satisfait de tout ce qu'il avait accompli, Dieu se reposa. Le repos où nous plonge notre trépas, cela signifie à son tour que nous sommes satisfaits, que nous acquiesçons à notre vie et à notre mort. Cessons de nous rebeller contre Dieu. Nous approuvons l'existence qui, à son terme, nous a conduits jusqu'à Dieu. Oui, au regard de la vie éternelle, les erreurs et les faiblesses que nous regrettons acquièrent un sens, car elles nous ont ouvert à Dieu. Tant que nous vivons, nous luttons avec nous-mêmes. En proie au doute, nous nous interrogeons sur le sens de notre vie. Nous demandons si Dieu est vraiment juste et si nous résisterons à son jugement. Mais la rencontre avec Dieu met un terme à ce combat. L'abandon de soi au Très-Haut fait taire nos inquiétudes, nos interrogations et nos doutes, lesquels font place à la contemplation et à la compréhension. Nous entrons alors dans un repos qu'aucun questionnement ne vient plus troubler. Pour les Juifs et les Grecs, ce repos n'est pas stérile, mais dynamique. Il nous unit toujours plus à Dieu. L'homme ne peut saisir en un seul acte les dimensions infinies du mystère de Dieu, ou plutôt du Dieu du mystère. Le repos auprès de Dieu n'est pas statique, mais il est dynamique, toujours plus pénétré de Dieu et de son amour. Et alors là, nous lui ressemblerons de plus en plus. Là, nous reposerons et nous aimerons. Nous aimerons et nous louerons. Et voilà ce qui sera à la fin. Sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura, lui, pas de fin? Au ciel, nous pénétrerons toujours plus avant dans le royaume de Dieu. Mais Dieu étant infini, le chemin céleste qui, de lui, nous pénètre, l'est aussi. Se reposer, c'est aussi se reposer de l'ouvrage accompli. C'est un repos empli de gratitude qui se souvient de l'œuvre que nous avons créée et de celle que Dieu a créée à travers nous et en nous. Au ciel, nous trouvons le repos en nous abandonnant dans les mains de Dieu. Mais dans ce repos, ce dernier nous apparaît comme un Dieu vivant et en perpétuel mouvement, désireux de nous attirer toujours plus à lui. La rencontre de Dieu n'est pas un éternel repos, mais c'est une vie prodigieuse à couper le souffle. C'est une tempête de bonheur, laquelle nous emporte et nous fait pénétrer toujours plus avant dans l'amour et dans la félicité de Dieu. Pour nos frères et nos sœurs, nous pourrons dire, vraiment, nous pouvons donc dire, donne-leur au Seigneur le repos éternel. Je répète, pour nos frères et pour nos sœurs, nous pourrons simplement dire, oui, Seigneur, donne-leur le repos éternel et que la lumière brille sur eux à jamais. Puisse la divine lumière, chers amis, illuminer celui et celle qui nous a quittés. Nous ne pouvons nous défendre d'associer la mort aux ténèbres. Redoutant l'aspect inconnu et obscur que nous prêtons à l'au-delà, nous souhaitons que la lumière éternelle de Dieu brille à jamais sur le défunt. puisse-t-elle éclairer sa vie, puisse-t-elle l'aider à la comprendre, éclaircir tout ce qui jusque-là lui avait semblé inexplicable. Que toutes les ombres et les imperfections de son existence puissent se transformer en lumière, qu'il devienne lui-même une source de lumière, qu'elle devienne elle-même une source de lumière, et que celle-ci nous éclaire également, nous qui désormais considérons sa vie dans sa totalité, sans pour autant magnifier le défunt, nous devons reconnaître la lumière qu'il fut pour nous et qu'il continue d'être. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble et le Seigneur m'a donné quelque chose qu'il voudrait que je puisse vous transmettre pour votre enseignement et votre encouragement. Donc, nous serons transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Transformés, passant d'un état de moindre perfection à un état de perfection plus haute, chaque nouveau progrès constituant pour ainsi dire une borne kilométrique du parcours spirituel total. Le panorama splendide que vous contemplez à l'horizon est tout simplement la perfection et la gloire que Jésus vous apporte et vous propose par sa vie dans la chair. Perfection et gloire desquelles chaque nouveau pas vous rapproche plus ou moins vite de ce Seigneur bien-aimé qui veut vous aider. Et quant au moyen le plus sûr d'accélérer vos progrès, c'est de ne jamais perdre de vue le but. Donc, pas de regard de complaisance sur un chemin de traverse, et encore moins sur le chemin déjà parcouru. Le but est devant vous, c'est la gloire qui est la sienne, à lui, votre Seigneur et votre Maître, et qui s'impose à vous avec toujours plus de force et de clarté. Ce que vous serez n'a pas encore été manifesté, mais sachez que lorsque Jésus-Christ sera manifesté, c'est-à-dire à vous, à vos yeux, et quand vous le verrez, vous deviendrez semblable à lui, car vous le verrez tel que Jésus est de la part du Père. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, et Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Et maintenant, nous allons terminer par la prière, et ensuite, je vous mettrai, si ça fonctionne, quelques chants d'un lointain passé, environ 1965. Pour le moment, je voudrais vous dire les paroles d'un ancien cantique, aussi très lointain. Ensuite, nous prierons. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Que faut-il autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, guidé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné, et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure, tu l'as dit, et je le crois. Prions. Dispose-nous toi-même à te chercher, ô notre Dieu, et fais-nous la grâce de t'apporter des cœurs pleins de foi, ouverts à toutes les bénédictions que tu veux répandre sur nous. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour les fautes et les péchés de cette journée. Daigne les effacer par le sang de notre Sauveur, afin que nous puissions nous retirer dans le sentiment de ta paix et de ton pardon, et que nous soyons de ceux qui aiment beaucoup, parce qu'il nous a été beaucoup pardonné. Tiens-toi près de tous les affligés durant cette journée, de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne connaissons pas, mais que tu connais toi, Seigneur. Tourne leur cœur vers toi. Parle-leur toi-même par ton Saint-Esprit. Nous t'invoquons pour ceux qui sont éprouvés par le deuil, par la maladie, par les angoisses de l'âme et du corps, par les préoccupations et les inquiétudes. Ô Dieu fidèle, apprends-nous à discerner ta main paternelle dans toutes tes dispensations, même dans celles qui nous semblent les plus mystérieuses, et que cette main puissante, après que nous nous serons humiliés sous elle, nous relève selon ta promesse, quand il en sera temps. Oui, exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de ton saint nom. Amen. Et maintenant, je veux essayer de vous mettre quelques chants d'un lointain passé. En ce temps-là, il n'existait pas encore des CD. Pas du tout. Et essayons quand même.
Believe in Him. Free yourself from worry. Go through this life and do your best. He has promised He will take care of the rest. Sometimes life can get you down, like when you need a friend and there's none around. If you've been losing but you want to win, or get the long shot gamble and turn to Him and believe. From worry, go through this life and do your best. He has promised He will take care of the rest. Bad luck keeps on tugging at your sleeve, and all your worldly troubles just won't let you be. When your good luck ship don't come sailing in, you must try.
chart another course and try again. And believe in him. Free yourself from worry. Go through this life and do your best. He has promised he will take care of the rest. He has promised he will take care of the rest. If you believe in him.
Stood on the bank by the weeping willow with another white river to cross, another white river to cross, with another white river to cross. And I believe I can make it to the other side, cause I feel a hand on me, helping me with another white river to cross. And I wake up to a many a day with another white river to cross, with another white river to cross, another white river to cross. I jump right in the dark and I swim right on towards the light on the other side. It's always there when there's another white river to cross. Oh, the whirlpools twist and pull at me with another white river to cross. Another white river to cross. With another white river to cross. And if I reach up, a hand is always reaching down for me. It's always there when there's another white river to cross. Well, the River Jordan is a narrow stream, but it's another white river to cross. It's another white river to cross. It's another white river to cross. But I believe there's a resting place that's provided just for me on the heaven side of another white river to cross. Yes, the River Jordan is a narrow stream, but it's another white river to cross.
Don't you know?
It's another white river to cross. It's another white river to cross. But I believe there's a resting place that's provided just for me on the heaven side of another white river to cross.
I believe there is a Holy Ghost.
I know that God ain't no stained glass window, 'cause he never keeps his window closed. There's so much I don't see. There's so much I don't see. I don't see how hair can turn silver gray. I don't see why my prayers can't get answered right away. I don't see why some folks keep a load in their mind with a sharp axe to grind. And I don't understand why the truth takes a twist. I don't understand why there is loneliness. I don't know why they claim that some men have no soul, but there's one thing I do know. Know that God ain't no stained glass window, and I believe that there's a Holy Ghost. I know that God ain't no stained glass window, 'cause he never keeps his window closed. Oh, he never keeps his window.
C'est Johnny Cash, Johnny Cash qui vient de chanter. C'est Johnny Cash en 1962. Merci.